Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut à tous, on se retrouve pour cette troisième partie de cet épisode 219 consacré au preview du premier tour des playoffs dans cette bulle à Orlando. L'équipe est la même que pour la preview de l'affrontement à l'ouest entre les Clippers et les Mavericks. Il y a tout d'abord Tom. Ça va Tom ?
Ça va très bien, toujours.
Et puis Adrien qui est toujours là, fidèle au poste. Comment ça va Adrien ?
Toujours très bien également, tout va bien.
Oui, parce que bien sûr, on n'enregistre pas ces deux épisodes de suite, les gars. Non, on s'est revus le jour d'après, forcément, pour deux épisodes de 20 minutes. On est honnête, hein, forcément. Bien sûr que non. Vous l'aurez deviné. Tout s'enchaîne ici. On va parler aujourd'hui de la tête de série du bas, celle en dessous des Clippers, la tête de série numéro 3, les Denver Nuggets, qui vont affronter le Jazz d'Utah. Donc, une série de playoffs entre deux équipes de la même division, hein, qui se sont souvent affrontées. On va revenir là-dessus. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson et vous la connaissez d'autant plus que je la répète à chaque épisode de preview. Les réseaux sociaux, principalement Twitter, les applis de podcast et 5 petites étoiles, ça fait toujours plaisir sur Apple Podcast. J'en ai fini avec mon intro. On se sépare quelques secondes et on se retrouve pour parler de cette série entre Denver et Utah. La tête de série numéro 3 de la conférence Ouest, les Denver Nuggets affrontent le Jazz de Utah. Les Nuggets de Denver qui affichent un bilan de 46 victoires et 26 défaites. Le Jazz d'Utah qui affiche lui un bilan de 44 victoires et 28 défaites. Encore une fois à l'Ouest, un duel de grosse attaque puisque les Nuggets sont la 5e attaque NBA, un peu en dessous pour un Utah. On est du côté de la 9e attaque. 12e défense pour le Jazz, 16e défense pour Denver. Encore une fois, pour la 3e fois de suite hein, dans ces previews d'un Kebdo, on est face à une équipe de Denver, on est face à une équipe qui a remporté tous ses affrontements de la saison contre l'équipe d'en face, mais on va y revenir. Les matchs étaient plus serrés que ce qu'on a pu voir du côté des Clippers Mavericks. À noter que du coup, les Nuggets ont gagné cette saison à Utah. C'était la première fois depuis 2014-2015 qu'ils allaient s'imposer du côté d'Utah. Voilà, c'est toujours la petite stat que j'aime donner pour mettre en place la série. On démarre comme d'habitude, messieurs, par un petit bilan de la bulle des deux côtés. Allez, une fois n'est pas coutume, allez, je vais commencer par Utah, non, cette fois-ci, je vais commencer par Utah, Adrien, c'est difficile, je pense qu'on pourrait vous aimer ça un peu comme ça, c'est difficile pour Utah en ce moment.
Ça résume assez bien l'état de cette franchise dans cette bulle, c'est compliqué effectivement, le meilleur joueur de la bulle, on en parlait tous les deux un petit peu en off avant, chez Utah, c'est clairement Rudy Gobert, chez les autres, ça a été un peu en dents de scie. Alors après, il y a plusieurs excuses entre guillemets, notamment en termes d'absence dans le roster du Jazz. Mike Conley qui est effectivement, on aurait peut-être pu espérer un rebond qui a pas été extraordinaire. Donovan Mitchell a un peu eu du mal au début, mais nous a quand même gratifié d'un bon gros match, bah justement le dernier face aux Nuggets où il y a eu deux overtimes, bon perdu par le Jazz, hein, comme tu l'as dit, mais on l'a vu un peu se réveiller, donc il pouvait reprendre des coups de chaud. Mais je pense pas une nouvelle fois que l'optimisme soit de mise du côté du Jazz, qu'on espère grand chose. Après, cette opposition, elle va être intéressante, mais on aura l'occasion d'en parler quand même.
Comme tu l'as dit, ouais, Adrien, ça s'est joué à peu. De toute façon, les trois matchs entre les deux équipes se sont joués à 11 points combinés. Hein, donc on est vraiment sur trois victoires du côté de Denver, mais trois victoires au couteau. Tom, même question sur cette équipe de Utah. J'en avais parlé, hein, c'était un peu l'équipe symbole, l'équipe qui a vu son match arrêté, ce qu'on avait dit être le patient zéro, donc Rudy Gobert en NBA. C'est une équipe qui vraiment patine à l'image d'un joueur qui était dans ta franchise des Grizzlies, c'est Mike Conley.
Ouais, clairement, hein. Le Jazz, enfin après le Jazz, faut savoir que cette saison, ils ont totalement changé d'identité, hein. Le Jazz était une équipe défensive de base et avec et qui comptait sur son système pour rayonner offensivement ou être au moins moyen offensivement, mais la majeure partie de sa valeur ajoutée était du côté défensif du terrain. Et cette saison, ils sont devenus une équipe offensive en switchant, enfin du moins en remplaçant Derek Favors par Bogdanovic, quoi. Donc du coup, ils sont devenus une équipe offensive, à mentalité offensive, en gardant simplement la pierre angulaire Rudy Gobert, qui devait faire la différence pour le système offensif du Jazz. Donc ils s'en sont quand même bien sortis sur un changement d'identité aussi brutal. Mais c'est vrai qu'on peut être un peu déçu de ce que, enfin, de tous les apports de cette équipe-là, notamment de Mike Conley cette saison, qui fait une saison bien en deçà de non seulement ce qu'on attendait de lui, mais de ce qu'il a montré précédemment à Memphis.
Après, dans la bulle, on peut aussi leur dire, voilà, je l'évoquais rapidement, mais l'absence de Bogdanovic, tu l'as dit, qui est peut-être celui qui illustre ce changement d'identité. Là, il est pas là dans la bulle et ça se sent notamment du côté offensif.
C'est vrai que du coup, on a dû donner des responsabilités offensives au niveau du shoot à des joueurs pas vraiment en réussite, notamment Mike Conley, et c'est vrai que ça s'est fait ressentir. Du côté de Denver, dans ce petit résumé des 8 matchs de la bulle, j'ai l'impression que Denver, c'est en train de devenir l'équipe Instagram, l'équipe TikTok, avec Michael Porter et Bol Bol. On est assez d'accord pour dire que on est face à une équipe qui conclut une très bonne saison régulière, mais j'ai l'impression qu'il y a des petits motifs d'excitation, je dirais, du côté des Nuggets. C'est comment ne pas le citer, le joueur dont Madian est devenu le fan numéro 1, Michael Porter Jr.
Totalement, hein, Michael Porter Jr. qui fait donc des sorties à plus de 30 points 10 rebonds régulièrement sur cette bulle. Donc forcément, c'est un peu ce qui était attendu. Alors, il y a les hipsters type Madian et d'autres qui s'écharpent sur savoir quel est le premier qui avait vu le potentiel du gars et est-ce que effectivement les autres équipes auraient dû prendre le risque dans la fanbase des Bulls en ce moment. Ça discute assez fort pour pas grand chose au final, mais pour savoir si ce risque aurait dû être pris. En tout cas, on en parlait dans les épisodes sur les Nuggets, on en a pas mal parlé nous cette année là chez Nuggets Hebdo. Ce poste 3 du côté de Denver était assez important, et la création extérieure, en tout cas la création de shoot par Jamal Murray était peut-être pas suffisante et qu'il fallait un peu de soutien. L'éclosion pour l'instant de Michael Porter dans la bulle fait beaucoup de bien, alors à voir, à confirmer sur ses playoffs puis après sur la longueur, mais en tout cas effectivement c'est peut-être un motif d'enjaillement, disons, du côté de Denver.
Tom, même constat, sachant qu'en plus du côté de Denver, il y avait des joueurs, on pense notamment à Gary Harris, qui sont sur le flanc pour l'instant. Michael Porter, vraie révélation.
Totalement. En plus, c'est un joueur qui a limite fait éclipser la bonne saison de Will Barton. Hein. Will Barton qui a été un joueur très positif pour Denver cette saison. Et il apporte un peu le petit supplément d'arme, en fait, le côté variance et talent brut intrinsèque en dehors de Nikola Jokic à la création extérieure et en dehors un peu de ce que peut apporter Jamal Murray qui n'a pas été là pour tous les matchs de la bulle. Enfin, faut savoir que les Nuggets ont fait beaucoup d'expérimentations dans la bulle, notamment avec des 5 majeurs, avec Nikola
Jokic. C'est le moins qu'on puisse dire.
En meneur de jeu, Bol Bol.
Avec Bol Bol en 3.
Voilà, Bol Bol au poste 3 à l'aile. Donc avec énormément de minutes de PJ Dozier. Donc voilà, Denver était vraiment une équipe qui a expérimenté beaucoup de choses et ça s'y fait ressentir au niveau défensif, hein. Clairement.
Totalement. Et maintenant que le décor est dressé, le décor est planté, je pense qu'on peut parler de la preview de cette série pure et dure. Alors encore une fois, on va révéler les offs. On parlait avec Adrien, j'étais un peu sur la toile, comme dirait Montaigne à son époque, hein, sur Internet. Et puis j'ai vu un 4-1 pour les Nuggets. Je me suis dit, ah, c'est dur quand même. Et puis plus on parle, plus on dresse le bilan. Est-ce que 4-1, les gars, sans révéler nos pronostics, est-ce que c'est pas un peu le témoin de l'écart entre une équipe d'un côté qui pêche, on l'a dit, le Jazz d'Utah, et une autre qui est en train de trouver des solutions, les Nuggets? Adrien, je sais pas ce que t'en penses.
Ouais, parce que l'écart sur le papier avant cette bulle, on va dire, il n'était pas si important que ça, en tout cas sur une série, même si Denver restait favori vu leurs résultats cette saison. Et là, justement, les Nuggets sont sur une pente ascendante, là où le Jazz paraît sur une pente descendante. Donc du coup, cet écart est en train de... Enfin, dans l'impression collective, est en train de grandir. Et du coup, c'est exacerbé juste à l'approche des playoffs et d'une confrontation directe. Oui, c'est compliqué, bah surtout, bah comme je disais tout à l'heure et comme on en parlait, c'est quand Rudy Gobert est ton meilleur joueur de ton équipe alors que t'as voulu changer d'identité pour être plus offensif, t'as quand même un petit problème de casting. Alors tu vas espérer que Donovan Mitchell fasse des très grosses prestations. Il y a toujours ce mythe des joueurs en playoff. Est-ce que Mike Conley peut retrouver un peu de sa superbe? On peut l'espérer du côté du Jazz, mais ça semble assez compliqué. Là où côté Nuggets, comme tu l'as dit Tom, en plus on a fait pas mal d'expérimentations. On a trouvé des joueurs qui peuvent contribuer à différents postes et peut-être un peu d'alternative par rapport à un effectif qui semblait assez figé, des rotations qui semblaient assez figées avant cet avènement de Michael Porter et les premières minutes de Bol Bol. Et du coup, le momentum, qui est un mot latin, donc du coup j'ai pas de problème avec Montaigne, le momentum est plutôt positif pour les Nuggets, clairement.
Et justement, je te relance là-dessus, Tom. Tu parlais, Adrien, de Gobert. En plus, Gobert qui va faire face à Nikola Jokic. On sait que c'est un joueur contre lequel il a extrêmement du mal. On parlait de ce match dans la bulle. Gobert le finit pas. Gobert est exclu à cause de 6 fautes. On sait que c'est un joueur qui pose extrêmement de problèmes à Gobert, parce que Jokic peut l'enfoncer, Jokic peut le sortir de la raquette. Enfin bref, c'est pas un bon match-up globalement pour eux. Et puis oui, la question de momentum, donc qui est acceptée par le Larousse, donc parfait. Bref, on a l'impression, c'est vrai que on a un affrontement 3-6, mais qu'il y a quand même un vrai écart entre ces deux équipes.
Oui, ben, clairement, hein, qu'on prend la dynamique des deux équipes, il n'y a pas photo, sachant qu'il y a une équipe qui semble être beaucoup plus au complet que l'autre. Et quand tu vois, par exemple, au niveau du banc et au niveau de la rotation, tu te dis que les joueurs du Jazz, tu vas faire confiance peut-être à 5-6 joueurs, et encore si tu penses pouvoir faire confiance à Jordan Clarkson. Alors à partir du moment où tu commences à rentrer Jordan Clarkson dans les joueurs auxquels tu as confiance, on arrive sur le théorème Jeff Green.
Sur l'échelle 30, de Jeff Green, on le met où?
Voilà, le théorème Jeff Green, encore une fois. Donc
Juste pour te couper, Tom, Clarkson qui en avait mis 37 quand même en saison régulière contre le Jazz en janvier. Donc on sait jamais. Peut-être que c'est une équipe qui lui réussit.
Contre les Nuggets.
Oui, contre les Nuggets, oui, parce que oui, il aurait été aussi capable d'en mettre 37 contre le Jazz, Jordan Clarkson. Hein, mais...
C'est ça la grosse différence entre les deux équipes, et sur la durée de la série, je pense que ça va vraiment jouer le côté profondeur, là où le Jazz sera obligé, par exemple, de faire jouer ses joueurs majeurs un petit peu plus de 35 minutes. Malone, lui, il aura un petit peu plus le choix de faire avec. Après, en termes de coaching, Quinn Snyder, c'est pas le premier venu, et on verra comment il peut arriver à réajuster ses rotations avec ça. Mais globalement, moi, je pense que, il y a un vrai écart entre les deux équipes, notamment avec la perte de Bogdanovic, et surtout le fait que tu parlais de Rudy Gobert et du coup de son duel avec Nikola Jokic, que pour moi, ce sont des... D'un côté, c'est bien pour Gobert, puisque c'est pas une équipe qui va permettre de lui... C'est pas une équipe contre laquelle il va sortir du terrain, puisque il joue grand.
Ouais, c'est pas Houston, quoi, grosso modo.
Voilà, c'est pas Houston. Donc, Rudy Gobert, normalement, s'il fait pas de faute, il devrait pouvoir rester sur le terrain. Par contre, là où c'est plus problématique, c'est que il va avoir des joueurs qui n'ont pas peur de l'attaquer, clairement. Et on l'a vu dans la bulle, les joueurs de Denver étaient assez agressifs. C'est l'équipe d'ailleurs qui finit avec le meilleur pourcentage de réussite au cercle, avec 74%.
Oui, et puis par rapport à ce match-up de pivot, il y a aussi un truc intéressant, comme tu dis, c'est l'utilisation de Nikola Jokic en point center, donc en meneur pivot, et poste haut, où il est capable de donner des ballons pour des drives de ses extérieurs, et ce qui empêche Gobert d'être à la contestation. Est-ce qu'il y a une façon à chaque fois dans le match-up qui lui a posé beaucoup de problèmes pour être aussi efficace que ce qu'il l'est contre d'autres équipes, où il est vraiment la tour de contrôle du panier du Jazz.
Et d'ailleurs, par rapport à ça, c'est vrai, pour revenir là-dessus, on parle de l'émergence, bien sûr, de Michael Porter. Il y a aussi la très bonne signature de Jeremy Grant, qui a eu un début de saison difficile, mais maintenant qui s'impose. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression, on avait fait une émission sur les Nuggets il y a quelques temps, bonne équipe en saison régulière, bloqué en playoff, et j'ai l'impression que cette équipe a peut-être, avec l'émergence de ses joueurs, alors je dis pas que c'est une équipe qui peut aller gagner le titre, je pense qu'ils en sont encore loin, voire très loin, mais je pense que c'est une équipe qui est pas à court de solutions en playoff maintenant, et ça va compter contre une équipe du Jazz qui, elle, semble être à court. Tu l'as dit, Tom, très peu de rotation à l'intérieur. Le cas de Donovan Mitchell, on en parlera peut-être, mais moi qui me tient à cœur, parce que je pense que c'est un joueur qui revient de playoff très compliqué la saison dernière. Gary Harris, le joueur qui devrait probablement le défendre, on ne sait pas trop où il en est au niveau de sa santé, c'est sûrement Torrey Craig qui va s'en occuper. J'estime que si Donovan Mitchell est un joueur majeur, un jeune joueur majeur qui veut s'affirmer en NBA, il doit faire une grosse série. Là, c'est un peu un révélateur pour moi, cette série, je pense, pour le joueur du Jazz. Donc, je pense que côté Denver, on a enfin les solutions pour contrecarrer une équipe en playoff vraiment, ce qui est une nouveauté, moi j'estime.
Ouais, non mais je suis globalement d'accord et je pense que ça rejoint une nouvelle fois l'émergence de Michael Porter Jr. parce que ça leur offre une variété et un nombre de choix plus important, parce que Michael Porter Jr., bon, il s'est fait bencher de nombreuses fois cette année et encore dans la bulle pour absence défensive, mais il a quand même le profil pour, et avec donc Will Barton qui a fait une excellente saison, comme tu disais Tom, un Jeremy Grant. Il y a beaucoup de monde qui peut contribuer en fait sur ce banc des Nuggets, ce qui leur permet de, ouais voilà, de varier. Mason Plumlee qui voit le terrain, de varier un peu le style de jeu, de varier de rythme aussi. On en parlait, on disait qu'entre leur banc et leur cinq titulaires, il y avait un rythme un peu similaire, ce qui souvent peut poser problème parce que justement au moment où t'as des rotations, t'aimes bien pouvoir changer un peu de rythme, déstabiliser la défense adverse. Le fait d'en plus d'intégrer Michael Porter dans le 5, hein, c'est ce qui a été annoncé pour au moins le début de ces playoffs, ça va permettre voilà tout ce genre de solution. Effectivement, on est peut-être un peu plus optimiste, mais aussi parce que du coup on va moins en demander à Jamal Murray, même si on espère que il va revenir sur le terrain normalement sans souci d'ici quelques jours, et on espère qu'il sera au niveau. Mais si Jamal Murray est au niveau, Michael Porter peut l'être, on rajoute vraiment un outil qui est indispensable dans les playoffs. On en parle souvent, c'est un ailier quoi.
Avec des errances défensives, c'est très bien dit, des absences, parce que c'est vrai que faut pas non plus glorifier Michael Porter. Je pense que c'est un joueur qui a encore du chemin à faire avant d'être
C'est un rookie, faut pas oublier aussi.
Oui, c'est vrai, mais je vois bien le camp Madian essaye de nous faire passer Michael Porter, peut-être pour un joueur qui ne l'est pas encore, mais c'est vrai que c'est très encourageant.
Totalement. Après, comme tu l'as dit, faut le mentionner, le côté défensif, Denver qui est la pire équipe en défense de la bulle, avec un defensive rating hors garbage time,
Et pourtant, il y a de la concurrence,
pourtant, il y a de la concurrence,
Washington. Ouais.
Donc, du coup, un defensive rating à 122, clairement, dans la bulle, là, ça a pas été leur fort. Hein. Ça a pas été leur fort du tout. Donc, on a retenu essentiellement les éclats offensifs de cette équipe-là. Mais quand t'as un niveau défensif comme ça, même si t'as une équipe en face de toi qui est mauvaise en attaque, tu peux t'exposer facilement parce qu'ils vont trouver des solutions beaucoup plus faciles, en fait. Sachant que, notamment le Jazz, c'est une équipe qui est vraiment douée pour créer des avantages sur du jeu de passe, quoi. Donc, si jamais,
La discipline collective sera importante.
C'est ça. Donc du coup, tu vas en parler de Ben. Tu as parlé de Donovan Mitchell. Si Donovan Mitchell il est face à une défense gruyère, il va s'en donner à cœur joie. Et on l'a vu un peu. On l'a vu en prolongation contre eux. Même sans Rudy Gobert, il a pris des choses en main.
Il fait effectivement une très grosse prolongation. Et c'est vrai qu'on l'a dit dans cette métamorphose du Jazz. Tu l'as dit, Tom, la défense potentiellement gruyère des Nuggets. Défense Gruyère Nuggets, il y avait peut-être un jeu de mots à faire, mais j'ai pas eu la lucidité de le faire. C'est vrai que sur une équipe du Jazz dans sa métamorphose qui maintenant shoote beaucoup à trois points et de façon extrêmement efficace, enfin en tout cas c'était un peu plus le cas durant la saison régulière, c'est quelque chose qui pourrait être exploité. Messieurs, le joueur à suivre, qui on va regarder dans cette série, je vais me permettre de commencer parce que je l'ai déjà un peu abordé. Donovan Mitchell, je l'ai dit. Série de playoffs l'année dernière, extrêmement compliquée. J'attends un peu, en fait, la confirmation avec Donovan Mitchell. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais j'attends ce moment où je peux valider voilà, son ticket parmi les vrais meilleurs jeunes joueurs NBA. C'est vrai qu'il avait fait une première saison tonitruante, et depuis, on le classe peut-être, j'ai l'impression qu'il descend de groupe en groupe de niveau de joueurs de tiers, si on utilise un anglicisme qui oblige Montaigne à se retourner dans sa tombe. J'ai l'impression qu'il descend au fur et à mesure du temps, que ça reste toujours un gros scoreur de série, mais qu'il n'y a peut-être pas eu cette évolution dans son jeu au niveau passeur. C'est Alan qui en parlait, je crois, dans une preview. Bref, j'ai envie que Donovan Mitchell, dans une série où je suis désolé, il doit montrer qu'il est meilleur que Jamal Murray sur le backcourt, il doit prendre en main des séquences. J'ai envie de voir un...
On lui en demande beaucoup, quand même. Pour reprendre ce que disait Alan, quand même, Donovan Mitchell, c'est pas un pick top 10... C'est vrai qu'on on a vu beaucoup, hein. Mais tu vois, la phrase, on lui demande de dominer Jamal Murray. Elle est compliquée quand même pour un jeune joueur de ce calibre-là.
Est-ce qu'à un moment, j'estime que de ce qu'on a pu entrevoir de Donovan Mitchell, il doit être capable de dominer Jamal.
Ah oui, moi j'espère pour lui et j'espère pour les fans du Jazz qu'il soit capable de faire ça. Et je pense qu'il en a les capacités, mais c'est pas évident et c'est loin d'être gagné d'avance.
Totalement. Ah, je suis d'accord, je lui en demande beaucoup. J'aimerais juste avoir la confirmation. Et j'ai pas envie, en fait, qu'on rentre en année 4 de Donovan Mitchell. On est quand même à un moment charnière, hein, prolongation, etc., au niveau contractuel. J'aimerais bien que le Jazz soit sûr que c'est le franchise player du futur. Parce que, alors, peut-être que je suis dur, mais personnellement, il y a un doute qui plane.
Ok. Bah, moi, de mon côté, je vais pas faire dans la surprise, et on l'a beaucoup mentionné, c'est Michael Porter Jr.
Oh non, tu tombes là-dedans aussi, Adrien.
Oui, bon, j'ai déjà fait mon coming out de la team Melo, donc maintenant je sais que je suis jugé et méjugé au sein de Dunkebdo, mais pas simplement parce que Michael Porter Jr., la hype, etc., mais parce que tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire que la capacité de Michael Porter Jr. à apporter ce qu'on a vu de lui, alors peut-être pas 30-15 tous les soirs comme il a apporté dans sa série où il fait 37 points, 12 rebonds, 30-15 puis 27-12, mais d'apporter cette variance dans l'attaque des Nuggets, c'est parce qu'il est capable de mettre des gros shoots, d'attaquer le cercle, il est très très embêtant à défendre, il faut le dire. Voilà, moi c'est surtout comment il va jouer, comment il va s'intégrer, et est-ce que justement pour l'année prochaine, même si bon, sur cette série je pense que les Nuggets seront favoris, on va y revenir, mais je pense pas non plus que les Nuggets soient candidats au titre, mais en tout cas est-ce que à court terme là on n'a pas les bases d'un vrai projet de contender du côté des Nuggets, et je pense que ça tourne autour de ce joueur-là, donc c'est celui qui va m'intéresser le plus, même si je suis pas certain que ce soit le joueur décisif de cette série, je le pense pas même.
Après, c'est très bien vendu, donc je te comprends, t'as su retomber sur tes pattes, Adrien, et c'est très bien vendu. Je précise juste, je repensais à ce que j'ai dit sur Mitchell, je voulais dire, je voyais déjà les fans du Jazz dans mes mentions, je voulais dire un franchise player dominant, c'est-à-dire vraiment un joueur potentiel superstar. C'est ça que je voulais, qui selon moi le doute planait par rapport à ça. Je me corrige juste. Tom, à toi, quel joueur tu vas suivre dans cette série entre les Nuggets et le Jazz?
Moi, tout simplement, Rudy Gobert. Rudy Gobert, c'est le meilleur joueur du Jazz. C'est un joueur qui est All-NBA. Donc moi, j'ai envie de le voir vraiment sur, au plus haut niveau contre une équipe qui n'est pas Houston. Donc j'ai envie de le voir face à cette équipe-là parce que je pense qu'il a vraiment une carte à jouer, que c'est un joueur qui peut faire la bascule. Alors j'irai pas jusqu'à dire qu'il va dominer Nikola Jokic, mais je pense qu'en fait la présence de Rudy Gobert peut vraiment changer un peu la géométrie du terrain et la façon dont Denver va jouer. Donc même si Jokic n'a pas peur de lui, je pense que Rudy Gobert, il doit être pour moi le deuxième meilleur joueur de la série, assez proche de Nikola Jokic si Utah a une chance. Donc c'est lui que je vais surveiller. Son impact défensif, voir s'il fait tous les efforts tout le temps, voilà, puisque là on est en mode playoff où il n'y a pas de possession, il peut pas se permettre de prendre des possessions de retrait, quoi. Et voir si offensivement il met toujours la pression sur le cercle, il roule toujours aussi agressivement vers le cercle, et qu'il arrive aussi défensivement à contrecarrer le petit jeu de Denver au niveau du coude.
Et il doit faire mieux que ce qu'il a montré contre eux, et il peut faire mieux. Effectivement, ça peut faire pencher un peu la balance du côté du Jazz.
On y reviendra, on fera peut-être un débat là-dessus un jour, mais ça, il y a des sujets parfois qui opposent des membres du site. Le sujet Gobert oppose moi et Tom à l'heure actuelle. Ouais. C'est-à-dire que bref, ça renvoie à d'autres trucs, considérations, pivots, etc. C'est une parenthèse beaucoup trop grande à ouvrir à ce moment-là, surtout qu'il est temps, il est l'heure des pronostics. Alors finalement, vers quoi on va se diriger? Allez, je donne la parole pour commencer à Adrien. Ton pronostic pour cette série entre Denver et Utah?
Ah, c'est dur. Franchement, c'est très dur en y repensant. Tu l'as évoqué un peu tout à l'heure en début de cette preview. Le 4-1 paraît dur, mais j'ai du mal à le revoir. Allez, si, quand même, parce que j'espère que Donovan Mitchell fera mieux. Et comme disait Tom, j'espère aussi que Gobert trouvera les moyens, au moins sur un match, de gêner les Nuggets. Je vais repartir aussi sur un 4-2, mais un 4-2 Nuggets. Je pense que ils ont l'ascendant, que ce soit psychologique ou basketball, sur cette série cette année-là.
Tom, de ton côté?
Moi, je vois 4-2 pour cette série, Tout simplement parce qu'en fait, je pense que Quinn Snyder a un gros avantage, notamment en termes d'ajustement. Et je le vois bien réagir. On l'a vu l'an dernier face aux Rockets. À chaque fois, il a réagi.
C'est vrai.
On lui proposait quelque chose de différent, il a su réagir. Et je pense que si jamais son plan A ne fonctionne pas, qu'il saura réagir beaucoup plus facilement que Malone, quoi.
Donc du coup, sans Bogdanovic, c'est dur quand même.
C'est ça. Même s'il y a Bogdanovic en moins, mais je donne quand même l'avantage du coaching. Et je pense que sur le coaching, ils peuvent attraper un match.
Eh ben, jamais 203. Enfin, non, parce qu'ils vont en gagner que deux matchs, le résultat. Mais je suis le troisième à parier le 4-2. Tout simplement parce que, alors moi, ça va être moins flamboyant comme explication. Je trouve le 4-1 trop dur. Je trouve le 4-3 pas qui...
Trop serré.
Ouais, ça reflète pas assez le...
Qui reflète pas les cas.
Ouais, les cas actuels.
Que tu perçois entre les deux.
Après, à méditer quand même. C'est vrai qu'Adrien, t'as posé ça de façon très juste. On aurait dû faire une preview à l'aveugle de cette série il y a 3 semaines. On n'aurait pas eu vraiment le même discours sur les deux équipes. Donc à voir si on juge pas un peu trop sur la dynamique et pas assez sur le niveau intrinsèque des deux équipes. À voir.
C'est la grande question de ces playoffs de la bulle.
Ah oui, c'est un questionnement qui va revenir beaucoup. Enfin, vous voyez déjà dans ces 3 premières previews, les mêmes questionnements reviennent toujours. Capacité à enchaîner d'une équipe, est-ce que l'avantage du terrain sert vraiment à quelque chose, la dynamique, etc. Enfin, c'est des questions qui vont se poser et qui se poseront dans nos 5 prochains épisodes, parce que oui, on vient de finir la 3e des previews. Alors pour l'instant, on n'a pas toujours annoncé de match 7 ou de série vraiment serrée
ou d'upset.
Ni d'upset. Alors, on va pas faire de spoiler, comme ne dirait absolument pas Montaigne, parce que
début. On va pas divulgâcher.
Divulgâcher, c'est ça. Mais je pense deviner une ou deux séries où on pourrait donner des potentiels upsets qui ne sont pas non plus un mot qu'aurait dit Montaigne, des surprises. Voilà. Parfait. Là-dessus, on va conclure cette 3e partie. On vous invite, je vous l'ai dit, à nous suivre sur les plateformes de podcast et sur Twitter. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle preview des playoffs. Allez, salut.
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 Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.